Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Vanier, présidente de La Ruche.
Bonjour Alice.
Coucou Sophie, je suis ravie de t'accueillir.
Bah, merci beaucoup, ça me fait
un
plaisir
donc
d'être là.
On t'accueille dans ce nouveau lieu puisqu'on a changé, on a déménagé il n'y a pas longtemps. Et donc, comme tu as réussi à éteindre l'interrupteur qui nous faisait un flash un peu bizarre dans les yeux...
Ouais, je suis très fière d'avoir été la technicienne aujourd'hui.
Chez Bob le bricoleur de l'arrivée. En plus, après, t'es venue comment d'ailleurs? Parce qu'avec les grèves...
Par plein de moyens. J'ai essayé de venir en bus, c'était pas possible. J'ai pris mes jambes, c'était un peu loin. Et pour être à l'heure, j'ai fini en taxi.
T'as écouté l'empreinte pendant ton trajet?
Exactement.
C'est vrai?
La dernière interview avec Sophia de... BNP Paribas qui parlait d'entrepreneuriat des femmes, je trouve ça très intéressant.
Ah bah je suis ravie. Donc du coup t'es entraînée, donc comme ça on peut déjà débarquer dans le vif du sujet.
Exactement.
Tu connais ma première question, je pense du coup.
Qui suis-je ?
Ah bah voilà. Je te laisse me répondre à ça. Bah ce que tu veux, hein. Tu peux me raconter toi qui tu es, une pensée philosophique ou vraiment ton parcours, voilà, ce que t'as envie de me raconter de toi quoi.
Je me demandais ce que j'allais raconter, je me suis dit je vais rien préparer comme ça.
Ah bah oui, mais c'est le but.
Ce sera plus instinctif. Donc écoute, bah je suis Sophie, j'ai 33 ans, ça fait 15 ans que je vis à Paris, je suis maman de deux enfants qui sont petits, hein, une petite fille de 4 mois et un petit garçon de 2 ans. Je suis entrepreneur et chef d'entreprise. On me qualifie de quelqu'un d'engagé.
En même temps, vu le business actuel, on peut pas dire autrement.
Non, c'est ça, mais voilà, c'est quelque chose qui me définit assez bien, et pas que dans le business, je pense que c'est...
Ah oui, au quotidien.
Bah oui, on essaie de...
Tu fais quoi, par exemple ?
D'être en phase. Bah, énormément de choses, enfin, je sais pas, cette année, c'est drôle, tout le monde se mobilisait à Noël pour dire on peut offrir de la seconde main, on peut faire des papiers cadeaux avec autre chose que de l'emballage jetable, et en fait, moi, ça fait très longtemps que
tu le fais déjà ?
Je le fais assez naturellement.
Tu fais comment, du coup ? Tu prends des... Parce que je ne sais même pas, moi, comment on emballe sans...
Ah bah, avec des journaux, avec des foulards, du pareo.
Ça doit être joli, non ? Un papier cadeau fait avec des journaux, je trouve, non ?
Ouais, ça, c'est joli.
Ça, joli, je trouve ça
donne
sympa.
Un petit côté vintage, un peu industriel, imprimerie.
Ah, tu me donnes des idées, là.
Ouais. Et puis après, c'est juste savoir être dans une certaine sobriété. Enfin, quand on n'est pas dans la surconsommation, ça nous semble assez naturel. Donc... voilà.
Et depuis toute petite, t'étais toujours été engagée ou c'est venu avec le temps finalement les prises de conscience écologiques, environnementales ou juste l'éducation?
Je crois que c'est depuis assez longtemps. Ouais, je pense que nous on le faisait de façon un peu contrainte parce qu'on n'était pas dans une famille qui ont les moyens de beaucoup dépenser. Donc, mais non, c'était toujours assez naturel et puis toujours une petite révolte qui grandit quand on prend de l'âge aussi sur les aspects environnementaux, sociaux, l'inclusion. Donc j'ai jamais eu de déclic.
Et même dans l'éducation de tes enfants, du coup, t'essayes de faire attention à ça ou pas ? Enfin, là, ils sont tout petits, hein, mais tu penses que tu vas...
Oui. Bah, mon fils sait déjà reconnaître la poubelle de recyclage et la poubelle de compost, ce genre de choses. Après... avec l'arrivée de mon fils, je me suis mis tellement de pression au début de bien faire, de pas acheter de vêtements.
T'arrives à prendre des vêtements déjà utilisés.
Voilà,
tout
par
comme
exemple,
ça, oui.
Bah voilà, beaucoup oui, de seconde main, sur ce qu'il mangeait, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais faut arrêter. J'ai plus de culpabilité sur ce que je fais mal que de fierté sur ce que je fais bien.
T'as tout à fait raison.
Et il y a un moment, c'est pas au consommateur. Enfin, il y a le consommateur, évidemment. Mais il a pas tout pouvoir, il a beaucoup de limites.
Et puis faut s'encourager, faut pas se blâmer.
C'est parfois difficile, ouais,
bien sûr.
Exactement. Donc
le but c'est d'essayer de faire mieux, des choses différentes, voilà. Et de pas s'en vouloir.
Donc non, j'ai rangé mes couches lavables. Et,
je te comprends
en fait.
J'ai
déjà pris, voilà. Et voilà, je l'assume, même si au début ça a été
dur. On n'est pas parfait. Et si à ton échelle, tu peux faire des choses qui te simplifient, parce que le but du consommateur, le consommateur engagé, ça, je pense qu'on peut avoir des discussions philosophiques là-dessus. Moi, je pense qu'à son échelle, chacun a des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres. Par exemple, je marche 20 km par jour, les transports, ça ne me gêne pas de pas les prendre. Donc, en ce moment, en période de grève, ça va.
Mais il y en a d'autres qui adorent le confort de leur voiture et qui préfèrent les couches réutilisables que laisser la voiture. Donc je pense que chacun peut faire des efforts sur quelque chose et qu'on sera jamais parfait. Donc voilà, ouais, donc on se rejoint là-dessus.
Voilà. Et l'effort, il doit être fait des industriels aussi, et
tout à fait.
Remettre la responsabilité là où elle est, tout même si fait. Évidemment on a du pouvoir.
Tout à fait.
Déjà, soyons heureux, alignés et pas trop durs avec nous-mêmes.
Et après, si on remet un peu sur ton parcours et ce qui fait ton poste actuel, après ta naissance, qu'as-tu fait? Comment s'est roulé ton parcours professionnel?
Mon parcours professionnel, moi j'ai fait du droit et de l'économie à Paris 1, donc à la Sorbonne. J'étais plutôt orientée sur le droit de l'environnement au début.
Ah, donc dès le début quand même, hein. Tout ce qui est environnement était dans ton ADN quand même. Hein.
Oui, ouais, ouais. Bon, ça s'expliquait tout simplement parce que pour le coup là, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une maison de famille dans les Landes, dans un coin somptueux qui est classé près de la frontière basque.
Tu veux pas dire le nom. Hein. Tu me diras ça en off.
Je te dis ça en off.
Désolée à tous les auditeurs, mais vous ne saurez pas où se trouve cet endroit magnifique, cette pépite.
Et qui est classé et protégé. Et par contre, bon, y a toujours un train qui a envie de passer dessus, une autoroute qui s'agrandit, etc. Et donc, on a passé beaucoup de temps avec ma famille à défendre l'environnement, la biodiversité, les oiseaux, etc. Et donc être en procès contre les sociétés routières, l'État, etc. Et donc moi, je me disais, bah tiens, d'en savoir un peu plus sur le droit de l'environnement, ça pourrait m'aider à protéger ces jolis lieux en France.
C'est intéressé, je pense, en plus. Non.
Et voilà, ouais. Mais bon, après quelques années dans du code...
J'étais tellement nul en droit, si voilà. Tu savais. Il fallait, moi je me rappelle en école de commerce, qu'il fallait juste simplement citer des mots-clés et tout apprendre par cœur. J'ai toujours été complètement nulle en apprentissage par cœur. Et moi, le droit, pour moi, c'était ça.
Il y a beaucoup de...
En fait, il faut
avoir une grosse base qui vient se mettre sur une logique. Mais après ma licence, je me suis dit, je vais faire une école de commerce. Je vois tous mes amis, ils font des écoles de commerce, ils font des Erasmus, ils partent à l'étranger, ils s'éclatent. Moi, ça fait 3 ans que j'ai le nez... dans la jurisprudence, etc. J'en ai marre. Et c'est à l'étranger, du coup, là, en Australie, que j'ai découvert
le business. Ce qui se passe actuellement. Oh là là, ça m'a complètement touché. En plus, tu me parles de faune et de flore, là.
Oui, ça me touche, oui. Ça me touche, et en même temps...
Je suis jamais allée, moi, je suis bouleversée, donc, quand je vois les koalas et tout ça, donc, je pense
ouais,
que toi...
Ouais, c'est terrible, ouais. Oui, oui.
Donc, oui, t'es en Australie, là-bas, du coup, tu me dis? Excuse-moi, je t'interromps, puisque je pense à...
Bah là, j'ai découvert pour la première fois ce qu'on appelait le business éthique, la CSR, donc la responsabilité sociale des entreprises. Donc bon, 4 ans d'études pour entendre enfin parler de quelque chose qui alliait vraiment l'impact et le business. Et du coup, ça, c'est un peu à ce moment-là où je me suis dit « Ah, mais c'est génial, on peut être un professionnel engagé en faisant autre chose que du droit ». Et quand je suis rentrée en France, donc j'avais 23 ans, je me suis dit je vais faire mon stage de fin d'études dans un département RSE ou développement durable ou voilà, là c'était, j'étais très déterminée. Et j'ai postulé à 2 stages, les 2 stages m'ont proposé un poste et puis du coup j'ai choisi d'aller dans la toute petite agence de conseil en RSE développement durable qui était à taille vraiment très,
très humaine
hein,
ouais,
voilà, il y avait 400 personnes, ça me parlait vachement. Et qui avait ses locaux à La Ruche. Donc c'était à l'époque KGMAP. C'était le premier espace de coworking parisien. Et en plus, voilà, qui rassemblait des entrepreneurs sociaux. Moi, je savais pas du tout ce que c'était des entrepreneurs sociaux, mais donc, voilà, ça rassemblait. Donc là, je te parle de, c'était 2011, des entrepreneurs qui montaient des business et qui en plus avaient des engagements extrêmement forts par ailleurs pour tout type de public, l'inclusion, l'environnement, etc. Et donc voilà comment j'ai mis un pied à La Ruche au démarrage.
Et du coup, tu vois comme quoi il y a pas de hasard.
Non. Et puis alors là, tout c'est là j'ai eu une bonne étoile qui m'a suivie puisque dans cette agence, j'ai monté un premier programme pour un grand groupe pour promouvoir l'entrepreneuriat social et accompagner très concrètement les entrepreneurs sociaux. Donc là, j'ai commencé à créer des programmes de formation pour les entrepreneurs sociaux, à trouver des mentors. Enfin, je découvrais tout, mais c'était vraiment passionnant. Donc j'ai piloté ça pendant 5 ans. Ensuite, à La Ruche, il n'y avait pas de programme d'incubation à proprement parler. Il y avait un lieu qui était incroyable. Il y avait une communauté d'entraide enfin, pour moi, le monde de l'entreprise, je le découvrais aussi. Et de voir que on s'échangeait des carnets d'adresses, des statuts, des bonnes pratiques, enfin, qu'il y avait une solidarité extrêmement forte dans un monde professionnel, c'était aussi quelque chose auquel je m'attendais pas et qui m'a tout de suite plu et même presque émerveillée dans un certain sens. Et de dire bah voilà, on va monter une boîte qui va proposer à des entrepreneurs de se faire accompagner, de prendre des bureaux à la ruche. Donc là, j'ai monté une entreprise. Qui aujourd'hui a fusionné avec La Ruche, qui s'appelait la Social Factory, et l'idée c'était d'accompagner tous ceux qui voulaient monter des boîtes qui alliaient business et impact, et si possible d'accompagner plutôt des gens qui auraient pas eu le réflexe de venir taper à la porte d'un incubateur, donc plutôt pas des hommes blancs qui sortaient d'HEC, mais plutôt voilà, des gens qui se pouvaient...
La diversité.
La diversité, exactement.
La diversité de profil, ouais, je comprends tout à fait. Qui fait la richesse, d'ailleurs.
Exactement, ouais, qui fait la richesse et le succès aussi des bien entreprises.
Sûr, bien sûr.
Voilà, donc on a j'ai monté un premier programme qui s'appelait Les Audacieuses. Donc là,
ah,
qui
j'adore,
était,
j'adore ce titre.
Pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, voilà. Donc maintenant ça fait 5 ans qu'on
c'est toujours ça marche toujours.
Ça marche toujours. On essaye de conquérir des territoires. Donc maintenant on a des audacieuses en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, à Marseille, en Pays de Loire. Enfin voilà, on essaie de créer une grande communauté de femmes entrepreneurs à impact.
Là, et ça fait partie de La Ruche, du coup?
Ça fait partie de La Ruche, ouais.
Et rappelle-nous un petit peu ce qu'est La Ruche concrètement, si on devait retenir deux grandes lignes.
La Ruche, c'est un réseau d'espaces de travail et d'incubateurs dédiés à l'innovation sociale.
Donc, c'est des entrepreneurs à impact.
Oui, et qui œuvrent pour l'égalité des chances face à l'entrepreneuriat.
D'accord.
Donc, on a deux prismes.
Et vous êtes implanté partout dans le monde ou juste en France?
Alors, pour l'instant, on n'est pas worldwide.
Ouais,
mais...
j'ai pas voulu mettre le mot anglais parce que si je vais me louper un vendredi comme ça, on va se louper.
Ça viendra sûrement.
France.
Pour l'instant, on est en France. On a 10 ruches. Des ruches en métropole, dans les grandes métropoles. Donc, évidemment, à Paris, on est à Bordeaux, à Marseille, à Montpellier, à Saint-Nazaire. On a aussi des ruches en milieu rural. Puisque quand je te parle d'égalité des chances face à l'entrepreneuriat, la discrimination géographique, c'est quelque chose de très fort en France. Et il y a assez peu de dispositifs pour les gens qui veulent monter des boîtes quand on est éloigné des villes. Et donc, on a une ruche à Péronne, en Picardie, et une ruche à La Hague, à Toulouse. Donc, ces petites villes ne vous diront peut-être pas grand-chose. Parce qu'elles
j'irai
sont petites.
J'irai googliser juste
mais
après.
Mais il se passe beaucoup de choses. Et il y a plein de gens là-bas.
Surtout
qui
s'ils n'ont pas beaucoup d'espèces de coworking, donc...
Ouais, voilà.
Bah, ça doit vraiment les rassembler, quoi.
Bah, ça rassemble, ça fédère, et puis surtout, ça donne des outils à des gens qui ont des projets pour dynamiser leur territoire, qui ont des compétences, et en fait, il faut les mettre en action et les connecter à un réseau, et c'est ce qu'on fait.
Et d'ailleurs, j'y pense, La Ruche. Pourquoi le mot, justement, pour l'organisation, comme dans une ruche, non?
Ouais, exactement.
Des abeilles,
ouais.
Et qui a l'idée? C'est pas toi, non?
Non, c'était pas moi. C'était en 2008.
Donc c'était avant que tu rejoignes.
Voilà, à la base, c'était une aventure de 5 copains qui étaient entrepreneurs sociaux, qui se sont rassemblés. Et voilà.
D'accord. Et quels sont les engagements, du coup, de La Ruche au quotidien?
Alors, c'est marrant parce qu'on se pose... Enfin, ça fait tellement partie de notre ADN.
C'est ce que tu me disais en off juste avant.
C'est
intéressant d'en reparler.
La question, il y a évidemment l'engagement par notre métier, qui est vraiment de se dire on essaie d'accompagner toutes celles et ceux qui, d'une certaine façon, prennent leur destin en main par l'entrepreneuriat. Et on veut que ce soit accessible à tous. Donc, ça, c'est notre engagement. Après, il y a l'engagement de notre quotidien, comment on fait notre métier. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir une aventure collective en interne avec les équipes qui soient la plus sympa possible, la plus respectueuse possible, qui mettent chacun dans une autonomie, une responsabilité. On essaie vraiment d'être une entreprise libérée, même si là, on grossit et on voit que c'est un challenge de grossir et de garder cette autonomie et cette satisfaction de chacun dans des postes qui sont avec des responsabilités.
C'est un peu le challenge de beaucoup de startups en fait qui ont l'ambition de
On est en plein dedans nous en ce moment.
Exactement.
C'est passionnant et du coup c'est vraiment bah, le challenge de on garde notre ADN. Voilà, la ruche c'est un projet militant, mais c'est un projet aussi qui grandit, qui vient de lever des fonds, donc on essaie de donner des objectifs, on met une pression supplémentaire sur bah voilà l'impact qu'on souhaite avoir. Aujourd'hui, on accompagne dans les programmes longs 150 entrepreneurs par an. On va en accompagner 600 dans 3 ans, donc il y a beaucoup de choses à faire.
Et, toujours en France, uniquement 600
pour l'instant sur en France, ouais. Donc là, on a des projets de ruches en Afrique de l'Ouest, etc.
Ah, génial. Mais c'est des projets, ça reste
des projets qui sont très probables.
Mais... On touche du bois, il y en voilà. A là, pour une part, du faux bois.
Et puis évidemment, on a des lieux, et donc on a aussi un rôle d'éducation, de sensibilisation, à des gestes tout bêtes, mais aux déchets. Typiquement, aujourd'hui, dans notre ruche à Paris, on a un frigo qui est un frigo nu, c'est-à-dire un frigo zéro déchet. Et donc, nos coworkers peuvent prendre un repas qui est dans un bac en verre, préparé par un traiteur en insertion. Et quand ils ont fini, ils remettent ce bac.
Qui est lavé,
qui va être réemployé. Donc, quand ils mangent à la ruche, déjà, ils n'ont pas d'impact négatif. Donc voilà, c'est des petits gestes.
Oui, c'est des petits gestes de consommateurs
exactement.
Responsables.
Après, bon... On n'est pas parfait, c'est difficile. Il y a des filières qui sont pas mis en place aussi parfois sur. Maintenant, il y a plein de traiteurs qui disent c'est compostable, mais en fait les filières derrière ça repart en poubelle verte. Donc voilà. Donc on sait qu'on a beaucoup.
Donc, on doit tous s'améliorer toujours, mais il fait déjà beaucoup de choses, je trouve. Donc,
oui.
Donc c'est important de valoriser. Et toi, du coup, en tant que présidente, quelles sont tes fonctions concrètement? C'est quoi une journée dans ta vie de présidente? Je fais la petite souris, la petite.
Ouais. Alors on est 3 co-dirigeants. Donc à 3, on se partage la tâche d'élaborer la stratégie et de développer les partenariats et d'aller trouver les partenaires institutionnels B2B qui montent dans le bateau avec nous pour accompagner plus de monde dans l'égalité des chances. Et donc moi, mon travail quotidien, c'est surtout d'aller convaincre et de co-construire avec ceux qui croient au potentiel de la ruche des programmes pour accompagner les personnes à se lancer et à développer leurs projets.
Est-ce que t'as des réussites incroyables de tes est-ce que t'as, en tête t'as comme ça t'as un exemple de réussite des personnes que tu as accompagnées, enfin que vous avez accompagnées ou pas?
Ouais, alors on a
des success stories parce que j'aime mieux écouter le côté successful que voilà, je suis le côté optimiste de la force.
Oui. Alors des succès, on en a pas mal. Tout premier projet qu'on a accompagné en 2012, c'est une association qui s'appelle Rejouer. Et aujourd'hui, Rejouer, ça commence à quand même être assez bien connu. Et en fait, c'est une jeune femme qui s'appelait Claire Tournefier, qui travaillait à la Croix-Rouge et qui a vu qu'il y avait énormément de jouets qui étaient donnés. Et ensuite, qu'il n'y avait rien qui était vraiment organisé. Et elle a organisé toute une filière de revalorisation des jouets par des femmes et des jeunes éloignés de l'emploi. Et la revente de ses jouets, du coup, en seconde main. Et aujourd'hui, elle a une boutique dans le 14e, elle a plus national. Et donc, pour nous... C'est pas une licorne, c'est pas la French Tech. Donc parfois voilà, c'est ça.
C'est ta licorne à toi.
Mais nous
c'est votre licorne à vous.
Pour nous c'est du succès parce que
bien sûr.
C'est très vertueux à la fois sur la chaîne des ressources humaines parce qu'elle voilà, c'est un chantier d'insertion, mais aussi sur l'aspect environnemental. Donc ça pour nous c'est un super succès. Après si on parle plus en termes de licorne, on a accompagné Sébastien Christian qui a monté en France son projet s'appelait Idova Altercord. L'idée c'était de donner l'information à tous et notamment aux sourds et aux malentendants. Et en fait, il a développé un projet, on va l'appeler le Shazam du sourd pour faire simple.
C'est très parlant.
Voilà, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui permet d'enregistrer un son et d'être prévenu via son téléphone de il y a un chien qui aboie, il y a une alarme incendie, ou j'arrive dans un hôtel, j'enregistre le son, quelqu'un tape à la porte, la personne est prévenue quand quelqu'un tape effectivement à la porte.
C'est génial.
Et aujourd'hui, ce projet, il est développé aux États-Unis, au MIT, et il travaille avec énormément de personnes. Ouais, c'est un projet fascinant.
Incroyable.
Et puis après, il y a plein de projets qu'on accompagne au quotidien. Donc là, je parlais ce matin avec un super projet qui s'appelle la FAC, qui est une plateforme en ligne de formation au métier de l'audiovisuel pour les pays en voie de développement et notamment africains. Et donc ça permet à quelqu'un qui est au Nigeria, par exemple, de se former au métier du maquillage parce qu'il y a une industrie du cinéma qui se développe là-bas. Et donc du coup, de pouvoir être formé sur un métier en tension et trouver son emploi. Voilà.
Ouais, c'est top.
Bon, des exemples, je pourrais t'en donner beaucoup.
Y en a, j'ai l'impression que t'as, y en a plein.
C'est ça, c'est dur de choisir, mais
choisir, c'est renoncer. Alors non, ne m'en donne pas plus. Et toi, c'est quoi tes prochains challenges?
Alors moi, je suis en plein, on est en plein dans un challenge à la ruche. On a annoncé là en octobre une levée de fonds. Donc on a levé 1 million d'euros. Puisqu'il y a un an avec les équipes, on s'est dit bon, allez, la ruche, on a fêté nos 10 ans. De quoi on a envie? Et on s'est dit, on a envie d'accompagner plus de personnes. Et aussi, il y a un moment, il faut prendre le tournant de la digitalisation. Parce qu'on pourra pas ouvrir des ruches partout sur le territoire. Par contre, grâce à notre mobile ou à Internet, on peut, transmettre une partie de savoir-faire d'accompagnement à la création d'entreprise. Et donc, il faut des moyens, il faut qu'on investisse. Et donc, on a fait cette levée de fonds pour ça. Donc maintenant, tout reste à faire.
C'est ça qui est génial, hein, en même temps. Toujours se réinventer, toujours avancer. Maintenant qu'en plus, vous avez les fonds, vous allez pouvoir faire plein de choses. Oh,
exactement. Donc là, on est vraiment...
La priorité, c'est quoi, du coup? C'est le développement international ou pas?
La priorité, c'est de développer les outils.
D'accord.
Nous, on était des artisans. On a quelqu'un en face de nous. On sait parfaitement l'accompagner. Il a un chef de projet, il a des mentors, il a des experts, il participe à des formations, etc. C'est comment on arrive à dupliquer ça sans à chaque fois faire... remettre les chefs de projet en face et mais voilà, d'essayer de créer des synergies et notamment comment faire quand quelqu'un il est un petit peu éloigné. Quand on parle du monde rural, c'est ça, il y a un problème de mobilité et c'est de se dire comment il va en présentiel dans une de nos ruches dans une ville, mais de chez lui il se connecte à son mentor, à son expert, à son chef de projet. Donc tout ça, on est en train de le développer. Donc c'est un peu la ruche 2.0, c'est passionnant. Ouais.
Ah, on est même au 4.0 maintenant.
Ouais,
hein.
Sûrement.
Je crois qu'on a augmenté de quelques points là. Est-ce que t'as des choses à ajouter? Est-ce que tu aimerais rajouter des choses sur la ruche, sur toi ou...
Ouais, la ruche, c'est une aventure collective. Et pour accompagner une aventure entrepreneuriale, c'est vraiment une aventure qui se fait en écosystème. Moi, aujourd'hui, je sais pas si c'est un message positif que je vais passer. Tout le monde parle de mettre du sens, à la fois au niveau individuel... quand l'étudiant il se pose la question de sa carrière, quand la personne est en carrière et se repose la question de son poste.
La fameuse quête de sens.
Maintenant c'est les boîtes qui se posent la question de la raison d'être et ça va même être on va devoir avoir les entreprises à mission, etc. Et il y a des sujets comme l'égalité des femmes, la ruralité, tout le monde en parle et en fait on trouve qu'on est quand même très seul sur ces sujets parce que voilà, médiatiquement oui, on parle de ce genre de choses, mais j'ai vraiment envie d'inviter tous ceux qui sont dans des entreprises à aller vraiment questionner les boîtes sur qu'est-ce qu'elles font concrètement.
Qu'est-ce qu'elles ont envie de faire aussi.
Et qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. Et je suis sûre qu'il y a tellement, il y a vraiment des volontés. Et je parle de la ruche, mais plein de tous les acteurs de l'écosystème qui ont besoin de ces partenaires, en fait, parce qu'ils ont des compétences, même au-delà des financements, même si évidemment on en a besoin. Mais voilà, c'est de se dire... faisons ces choses ensemble. Ça c'est mon message aussi, c'est de dire on a besoin d'être tous ensemble pour aller beaucoup plus loin. Ouais.
à plusieurs on est meilleur en fait.
Exactement. Ouais.
Bon, la solidarité. Écoute, merci beaucoup. C'est sur ces jolies paroles
qu'on
va rendre le micro.
Proposer de venir et de partager ce petit moment avec toi.
Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, bien sûr, et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter l'empreinte. Et proposez-moi des profils intéressants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.